de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Rénovation des écoles était l'engagement de l'Indonésie à soutenir le développement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a affirmé la ministre Retno. Ambassadeur de Biélorussie en Indonésie a qualifié le 10e WWF de forum d'apprentissage et de coordination. Membre du DPR RI rencontre l'OMS en vue à sauver la Palestine. Office du tourisme du Kalimantan Oriental organise le Festival de la culture folklorique RBIFF. Le gouverneur par intérim des Jawa Oriental a apprécié les archives P3GI en tant que patrimoine de la mémoire mondiale. L'université Brawijaya ouvrira une maison de la culture indonésienne à Tianjin en Chine. Voici le journal complet. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a qualifié que le projet de rénovation scolaire était l'un des exemples de l'engagement de l'Indonésie à soutenir le développement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Auparavant, la ministre des Affaires étrangères, Retno, et le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Tekachenko, ont visité l'école primaire de Wutung, une école primaire située dans la zone frontalière entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cité par Antara, après avoir visité la poste transfrontalière de l'État UPLBN SCO dans la ville de Jayapura, Papouasie, jeudi 9 mai, Retno Marsudi a déclaré qu'outre l'éducation, sa partie est également partenaire d'autres projets importants tels que la gestion des déchets, la construction d'un centre d'extension dans Sangdi comme celui actuellement en construction à Vanimo. Retno Marsudi a expliqué qu'actuellement, PLN Société Anonyme a également construit une infrastructure de réseau électrique à Wutung, y compris 88 poteaux électriques et ses câbles, dans le cadre du plan d'exportation d'électricité de l'Indonésie vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'ambassadeur de Biélorussie en Indonésie, Raman Ramanowski, a déclaré que le 10e forum mondial de l'eau de cette année était un forum d'apprentissage et de coordination en vue d'une meilleure gestion de l'eau. C'est ce qu'il a transmis aux journalistes lors de la commémoration du jour de la victoire de l'Union soviétique dans la guerre mondiale à la résidence de l'ambassadeur de Russie en Indonésie à Jakarta jeudi 9 mai.
It's very important for life itself, for sustainable development.
L'eau est essentielle à la vie elle-même pour le développement durable de n'importe quel pays. C'est pourquoi nous devons discuter de ce sujet pour apprendre les meilleures pratiques d'autres pays et aussi pour mieux coordonner nos efforts pour gérer cette ressource très précieuse. L'ambassadeur Raman a ajouté que les ressources en eau de Belarus sont suffisantes, mais cela ne signifie pas que le pays n'a pas besoin de les conserver. Il a affirmé que le gouvernement biélorusse essayait d'assurer une gestion plus efficace des ressources en eau. Raman a également déclaré que la Biélorussie était prête à partager son expérience en matière de gestion des marécages. Même si la Biélorussie sera présente, il ne peut pas confirmer quels représentants assisteront au forum qui aura lieu à Bali du 18 au 24 mai. La faction du Parti de la Justice Prospère, PKS, du Conseil représentatif du peuple indonésien, DPRRI, s'est rendue au siège de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Genève, en Suisse, pour inviter l'Organisation mondiale de la santé à aider à sauver les Palestiniens. Dans un communiqué officiel reçu par Antara jeudi 9 mai, le président de la faction PKS, Jazuli Juwaini, a déclaré que la visite avait pour but de mener à bien le mandat de la Constitution de 1945 visant à mettre en œuvre l'ordre mondial. Selon lui, dans ce cas, l'OMS a un rôle stratégique dans le cadre de la coopération mondiale, d'autant plus que la santé est devenue une gestion humanitaire mondiale. À la même occasion, le président du Conseil de la Shura du PKS, Salim Segaf Al-Jufri, a encouragé l'OMS à parler plus fort et à agir davantage pour sauver des vies humaines dans la bande de Gaza. Plus de 15 000 enfants ont été tués à Gaza depuis le début du conflit entre Israël et le groupe palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Le département du tourisme du Kalimantan Oriental se prépare à organiser le Festival folklorique international de Borneo Oriental, EBIFF, du 26 au 30 juillet 2024 à Samarinda. Cité par Antara, l'événement a été combiné avec un carnaval culturel international comme moyen de connecter la culture locale avec les arts et les communautés culturelles de plusieurs pays. Le chef du service touristique du Kalimantan Oriental, Rekin Saridewi à Samarinda, a déclaré jeudi 9 mai que sa partie souhaitait utiliser les BIFF comme plateforme pour présenter le potentiel de la province des arts et de la culture de la côte jusqu'à l'intérieur des terres. Le festival qui aura lieu à Gelora Kadiri Uning Sempaja et Temindung Kreatif UB Samarinda se déroule dans l'esprit de présenter la richesse de la culture et du tourisme de Kalimantan Oriental aux yeux du monde. Pendant ce temps, Gunawan affirme que ce festival n'est pas juste une performance artistique, mais un effort stratégique de promotion du tourisme. Des délégations de divers pays seront présentes, y compris du Japon, de Pologne, des États-Unis, de Corée du Sud, du Mexique, d'Inde, de Turquie et de Bulgarie. Le gouverneur par intérim de Java East, Adi Karyono, a apprécié les archives du Centre indonésien de recherche sur les plantations sucrières, ou P3GI, de la ville de Pasuruan, qui était désignée Mémoire du patrimoine mondial par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Cité par Antara dans une déclaration écrite à Surabaya jeudi 9 mai, Adi s'est dit fier que les efforts de l'équipe du service de bibliothèque et des archives de la province de Java East pour archiver et documenter l'histoire des plantations de canne à sucre en Indonésie avaient reçu une reconnaissance internationale. Adi a déclaré que les archives du P3GI avaient été reconnues pour leur importance car elles contenaient des témoignages importants sur l'évolution de l'industrie des matières premières. Il a ajouté que l'accès aux archives du P3GI est désormais ouvert aux chercheurs, aux universitaires et au grand public, permettant ainsi une diffusion plus large de connaissances sur l'histoire et le développement des plantations sucrières, notamment dans l'est de Java. Les archives P3GI sont des documents compilés entre 1887 et 1986. Elle contient des archives sur la coopération internationale, les avancées technologiques dans l'industrie sucrière et les nouvelles découvertes de la recherche liée au sucre. L'Université Brawijaya UB va ouvrir une maison de la culture indonésienne à Tianjin, en Chine, pour encourager l'introduction des langues et d'autres valeurs culturelles dans les pays. Cité par Antara jeudi 9 mai, le recteur de l'UBE, Widodo, lors de sa rencontre à Pékin en Chine, a déclaré que l'UBE avait ouvert une maison culturelle à l'Université des études étrangères de Tianjin, TFSU, pour présenter la culture et la langue indonésienne. Car l'indonésien est une langue mondiale reconnue par l'UNESCO. Il est prévu que la Maison de la culture indonésienne du TFSU est ouverte vendredi 10 mai. Outre la cérémonie, l'ouverture de la Maison indonésienne de la culture comprend également des conférences sur des sujets culinaires indonésiens, la littérature sino-indonésienne contemporaine et un atelier de fabrication de batik jumput, le tout animé par des professeurs de la Faculté des sciences culturelles FIBUB. Widodo a déclaré que son université avait choisi la Chine, en particulier Tianjin, comme lieu d'implantation de son foyer culturel, car l'UBE et la TFSU entretiennent déjà une coopération étroite, notamment dans le domaine de la littérature chinoise. Pendant ce temps, le doyen de FIB, l'Université Brawijaya, Hamamah, a déclaré que la Maison indonésienne de la culture n'est pas seulement un lieu d'exposition, mais aussi un centre de culture et de créativité. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Vladimir Poutine dirige officiellement la Russie pour la cinquième fois » avec Maudry. Cinq jours tard, l'investiture de Vladimir Poutine à la présidence de la Russie pour la cinquième fois de sa carrière politique a eu lieu mardi dernier. Auparavant, lors de la 8e élection présidentielle russe, qui s'est déroulé du 15 au 17 mars, Vladimir Poutine avait remporté une victoire absolue dès le premier tour, avec plus de 87% des voix en sa faveur. L'investiture du président élu de la Russie Vladimir Poutine a eu lieu mardi dernier, 7 mai, au palais du Kremlin, en présence de membres du Conseil fédéral et de juges de la Cour constitutionnelle russe. Vladimir Poutine a juré de respecter et de défendre tous les droits et libertés de l'homme et du citoyen, d'obéir à la Constitution de la Fédération de Russie et de défendre la souveraineté et l'indépendance de son pays. Sur le plan intérieur, la victoire de Poutine peut être considérée comme le reflet de la confiance et des espoirs du peuple russe à son égard, en particulier lorsque Moscou était impliqué dans une guerre avec l'Ukraine. Le cinquième mandat de Poutine commence environ 2 ans après le déploiement militaire russe en Ukraine, qui a suscité la condamnation mondiale dans cette guerre. La Russie était en conflit, pas seulement avec l'Ukraine, mais aussi avec les pays occidentaux qui soutenaient l'Ukraine. Poutine a accusé les pays occidentaux d'utiliser l'Ukraine comme moyen pour tenter de vaincre et de diviser la Russie. De l'autre, l'Occident accuse la Russie d'attaquer l'Ukraine pour contrôler son territoire. La confrontation de la Russie avec les pays occidentaux a amené les États-Unis et plusieurs de leurs alliés à boycotter la prestation de serment et l'investiture de Poutine, et n'ont pas envoyé de représentants pour y assister, contrairement aux États-Unis. Allié traditionnel de la Russie, la Corée du Nord a manifesté dès le début son soutien à Poutine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a félicité lundi 18 mars, ou un jour après les élections générales russes, Vladimir Poutine, après sa réélection à la présidence de la Russie. Vladimir Poutine dirigera la Russie pour les 6 prochaines années, jusqu'à 2030. Sa victoire ne changera certainement pas la carte géopolitique mondiale, notamment en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien. Espérons que les alliés qui soutiennent les deux parties pourront apporter une contribution susceptible d'encourager la fin de la confrontation au lieu de jeter de l'huile sur le feu. Pour ce jour, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 10 mai 1940. Winston Churchill remplace le premier ministre Chamberlain. Après l'échec des troupes britanniques à empêcher l'occupation allemande de la Norvège en avril 1940, Chamberlain perdit le soutien de nombreux membres de son parti conservateur. Citant historie.com, le 10 mai 1940, Hitler envahit les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Le même jour, Chamberlain perd officiellement la confiance de la Chambre des communes. Winston Churchill devient chef du gouvernement de coalition. Un jour plus tard, Winston Churchill remplace également Chamberlain au poste de premier ministre britannique. Le 10 mai 1994, Nelson Mandela est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. Il a été élu président et a exercé les fonctions de président de l'Afrique du Sud du 10 mai 1994 jusqu'au 14 juin 1999. Mandela est devenu le premier président noir avec William de Klerk comme vice-président. Mandela est également considéré comme une figure anti-discrimination noire ou contre l'apartheid. Même s'il a été emprisonné pendant 27 ans par le gouvernement de l'apartheid, dans son premier discours en tant que président, Mandela a en fait appelé à la paix. Le gouvernement de Mandela s'est concentré sur les efforts visant à éliminer l'apartheid en éradiquant le racisme, la pauvreté et les inégalités, ainsi que la réconciliation. Le 10 mai est la journée mondiale du lupus. La journée mondiale du lupus est célébrée tous les 10 mai. A été proclamée pour la première fois le 10 mai 2004, lorsque le Conseil international a réuni des organisations internationales qui se concentrent sur le lupus de 13 pays différents à Eton, Angleterre. Lors de cette réunion, ils ont déclaré la première commémoration de la Journée mondiale du lupus. Cette déclaration visait à rappeler aux gouvernements du monde entier d'augmenter leur soutien financier à la recherche sur le lupus, de sensibiliser et de fournir des services aux malades. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Aku masih ingat, beranikan diri menyapa, percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman. Ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran. Dan itu tak runtuhkan niatku, ujian menuju hatimu. Ini aku yang tak menyerah, meski tak jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie. Ayant pour le titre, le gouvernement indonésien demande à tous de surveiller la distribution subventionnée d'engrais. Le ministère de l'Agriculture invite toutes les parties à superviser conjointement la distribution d'engrais subventionnés pour accroître la productivité agricole. Lorsque la distribution d'engrais a atteint 9,5 millions de tonnes, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, lors d'un briefing au quartier de commandement militaire de Siliwangi 3 à Bandung, Jawa Occidental, mardi 7 mai. Le ministère de l'Agriculture espère que la distribution des engrais subventionnés ne sera pas entravée par des comportements inappropriés de la part des distributeurs, des détaillants ou de certains acteurs qui pourraient nuire aux agriculteurs dans la production alimentaire. Le ministre américain a déclaré qu'il surveillait la distribution en se rendant sur le terrain ou en regardant les médias. Selon lui, le gouvernement ne veut pas de mauvaises pratiques des distributeurs qui abusent des ventes et causent des pertes. Le ministre a dit en outre fait remarquer que l'allocation supplémentaire d'engrais s'élevait à 28 millions de rupiah, soit une augmentation de 100%. Ainsi, le total d'engrais disponible est de 9,55 millions de tonnes contre seulement 4,5 millions de tonnes auparavant. Pendant ce temps, à la même occasion, le raisin de Bandung, Dadang Supriyatna, a remercié le ministre de l'Agriculture pour avoir amélioré la production dans l'ouest de Java, principalement pour l'allocation supplémentaire d'engrais. Dadang a déclaré que les engrais sont un facteur clé pour améliorer la production agricole dans la résidence de Bandung. C'est Juritok, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Seperti luka.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Et cette fois, je vais vous présenter village touristique de Jatilui avec moi, Audrey. Chers auditeurs, le village touristique de Jatilui à Bali a été choisi comme destination touristique pour être visité par les délégués du 10e Forum mondial de l'eau, le plus grand forum international de l'eau au monde qui se tiendra du 18 au 25 mai 2024. En 2012, Jatilui a reçu une reconnaissance internationale quand son système traditionnel d'irrigation des rizières, à savoir Subak, reconnu par l'UNESCO comme l'un des patrimoines culturels mondiaux. Le système Subak, enraciné dans les enseignements Trihita Karana de l'hindouisme, reflète l'équilibre et l'harmonie entre les humains, la nature et la spiritualité. Construit au 11e siècle, Subak n'est pas seulement un système d'irrigation, mais aussi une philosophie de vie qui met l'accent sur l'harmonie et la durabilité. Chajoetar, le village touristique de Jatilui est situé dans le district de Panabel, dans la région de Tabanan à Bali. Jatilui est entouré de 24 hectares de forêts protégées. Ce village abrite diverses espèces endémiques de flore et de faune, notamment divers types d'oiseaux et d'animaux rares, tels que le loris lent de Java. Le village de Jatilui offre pas seulement une vue imprenable sur les rivières en terrasse, mais il propose également plusieurs activités aux touristes, notamment des randonnées, tout en profitant de la beauté des rivières en terrasse, du vélo, des démonstrations culinaires et des visites des plantations de café, d'avocats et de durian. Le village de Jatilui accueille également des festivals et cérémonies traditionnelles qui permettent aux touristes de découvrir la richesse de la culture et des traditions locales. Chers amis, lors du 10e événement du WWF, le village touristique de Jatilui sera décoré de nombreux panjors. Panjor est un grand poteau de bambou courbé décoré de jeunes feuilles de cocotier de forme spéciale. Les feuilles de cocotier sont appelées généralement janur. En dehors de cela, les délégués seront également accueillis par une danse traditionnelle balinaise, à savoir la danse Rejian, accompagnée de musique de mortier récrasé. La délégation de WWF se verra également présenter Jajelaklak. Jajelaklak est similaire au gâteau sarabi, mais à base de riz brun. Outre la visite de Jatilui, la délégation du Forum mondial de l'eau sera également invitée à effectuer la procession Malukat, qui est une tradition ou une cérémonie habituellement pratiquée par les Hindous, notamment à Bali. Malukat est destiné à purifier l'âme des mauvaises choses en utilisant l'eau comme médium provenant des sources. Le terme Malukat lui-même vient du mot Sulukat, où Su signifie bien et Lukat signifie purification. Ainsi, en termes simples, la Malukat peut être interprétée comme une bonne purification. Le but est de rafraîchir l'esprit. Pendant le processus de Malukat, les participants à la cérémonie de Malukat seront aspergés d'eau bénite qui devrait calmer le cœur et rafraîchir l'âme. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
pencuri tertampan kepadaku. Mungkinkah kita merasa getarannya sama? Mungkinkah kita seharusnya menyatukan rasa?
Indonesia.
Halo pagi yang indah, dengarkanlah sebentar saja. Sudah ku rencanakan hari ini, aku yang punya. Takkan ku terganggu, takkan ku marah.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur. Et cette fois, je vous présente la première du film romantique Peony au Japon, avec Maudry. Chers auditeurs, le film roman Peony a été présenté en première au Festival international du film d'Okinawa OIMF fin avril 2024. L'événement a lieu dans la ville de Naha, dans les îles de Okinawa au Japon. Ce festival d'envergure internationale porte sur le thème rire et paix, avec les meilleurs films de divers pays, notamment d'Asie. Le film roman Peony était le seul invité spécial indonésien à l'événement OIMF de cette année. Ce film est très spécial car il montre l'aventure d'un triangle amoureux de différentes cultures, prenant pour toile de fond trois villes de l'île, la plus septentrionale du Japon, Hokkaido, à savoir Sapporo, Shobetsu et Wakanai. Chers auditeurs, le réalisateur Romain Pioni a déclaré « Alfri souhaitait réaliser d'autres films à l'avenir, notamment des films qui favorisent les échanges entre l'Indonésie et le Japon. Pendant ce temps, le producteur du film Romain Pioni, Vincent Manchaya, a admis qu'il était fier de l'apparition de Romain Pioni à l'OIMF. De plus, le film a reçu un très bon accueil au Centre d'art culturel de Naha, où s'est tenu l'OIMF 2024. Ce film sera également projeté dans tous les cinémas nationaux indonésiens. Chers amis, ce film a été produit par Connection Film, en collaboration avec Yoshimoto Creative Indonesia et Neo Metro Film, et joué par des artistes japonais et indonésiens, dont Jessica Veranda, la ex de membre de JKT48, Genki Sadamatsu, Hitomi, Diera Natania et Daisuke Hamada. Romain Pioni rencontrera l'histoire de deux personnes qui souffrent et envisagent d'aller au Japon pour trouver la magie et l'illumination. Mon cher Jouetard, c'est tout, l'Indonésie en couleur.
Jalani saja. cukup jangan banyak bicara.
Voice of Indonesia.
Hey boys, coba dengar aku. Ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical avec Maudry. Et cette fois, je vous présente une chanson de Sumatra du Sud intitulée « Sayang Selaya ». Chers auditeurs, la chanson « Sayang Selaya » est une chanson typique des habitants de Lahat, dans le sud de Sumatra. Les paroles de la chanson « Sayang Selakat » sont présentées sous forme de rime pour la communauté de Lahat et les habitants de la région surnommée « Bumi Sriwijaya ». Le pantun est une forme de littérature orale souvent interprétée lors de divers événements. La chanson Sayang Selaya enseigne l'amour et la paix. Cette chanson contient également des conseils pour se protéger les uns les autres et partager un amour sincère pour les autres. Avec des paroles rimées accompagnées d'un son profond, la chanson Science Laya est souvent chantée lors de divers événements pour la tribu Komering et les habitants du sud de Sumatra en général. Pour changer tard, voici la chanson intitulée Science Laya de Sumatra du Sud, chantée par Andian. Bonne écoute!
I'm back.
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.